Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu au micro de Canal Académie pour nous parler encore d'un autre aventurier. Vous avez choisi Mermoz. Pourquoi avoir choisi Mermoz, Fabrice ?
Mermoz, c'est un aventurier, mais peut-être plus que cela, c'est un héros. Et il me semblait qu'à travers sa figure, on pouvait réfléchir sur ce que c'est que l'héroïsme dans la France de l'entre-deux-guerres. Qu'on pouvait essayer de voir comment se combine à cette époque un ensemble de figures et un ensemble de facteurs qui font émerger, qui font saillir à ce moment Mermoz. Parce qu'on a peut-être oublié aujourd'hui l'immense figure que ça a été dans l'entre-deux-guerres et que ça a été dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale.
On a tendance à oublier Mermoz au profit de Saint-Exupéry.
Oui, je crois que la figure de Saint-Exupéry, hein, ils sont contemporains, ils ont des expériences un peu parallèles.
Ils sont nés tous les deux quasiment à une année de distance.
Exactement, Mermoz naît en 1901 et Saint-Exupéry naît en 1900 avec le siècle. Donc, ils sont assez parallèles. Ils vont participer à des expériences. Ils vont vivre comme adolescents la Première Guerre mondiale. Ils vont se retrouver à rentrer, à essayer de rentrer dans l'aviation, ce qui n'est pas toujours facile à cette époque. Et ensuite, ils vont participer à cette formidable expérience qu'est la ligne, hein, qu'est la liaison aérienne de plus en plus étendue. Avec le prétexte de l'aéropostale, avec le prétexte du courrier, la liaison aérienne donc de plus en plus étendue, qui va conduire à Dakar, qui va conduire en Amérique, qui va conduire dans les Andes. Et donc, ils sont dans cette génération qui essaye de faire que le globe soit entièrement joignable par avion. Et il y a un troisième personnage aussi qu'on ne peut pas oublier, même si, dans une certaine mesure, lui aussi semble, me paraît un peu écrasé par la figure de Saint-Exupéry, c'est Joseph Kessel, hein, qui est lui aussi l'autre grand écrivain, puisque Saint-Exupéry, c'est quand même Le Petit Prince, le livre qui fait que pratiquement tous les enfants du monde le connaissent, et dans Le Petit Prince, évidemment, la figure de l'aviateur. Kessel, ça va être le journaliste, l'écrivain, mais il ne faut pas oublier, c'est aussi l'homme qui participe à la Première Guerre mondiale, qui va écrire L'Équipage, qui va écrire Vol de nuit, et donc qui va essayer de montrer au public ce qu'a été l'expérience très difficile, très pénible de ces aviateurs, même s'il essaye de la transcender en lui montrant une certaine poésie.
Et c'est un destin unique dans ses origines, ou il a au contraire beaucoup de liens justement avec les mêmes origines que Saint-Exupéry ?
Oui, il y a un peu une différence. C'est-à-dire que Mermoz, c'est vraiment la dimension qu'on affirme chez lui, c'est le côté homme du peuple. Oui. Celui qui part de rien et qui va essayer d'avoir une grande carrière, qui va s'imposer par sa qualité de pilote, qui va s'imposer par un physique mais absolument extraordinaire. Parce que il faut, si les auditeurs ont la possibilité, il faut voir une photo de Mermoz. C'est un peu le même physique que Johnny Weissmuller à la même époque, si vous voulez. C'est-à-dire une montagne, on l'appelle le grand d'ailleurs, mais un type d'une force et d'une musculature absolument colossale. Et nous avons tendance aujourd'hui à penser que l'aviation, c'est surtout la dimension technique qui compte, mais il n'y a pas que ça à l'époque. Hein. Je dirais que c'est un peu comme les pilotes de Formule 1. Il faut tenir l'appareil et il faut le tenir physiquement. Et il faut le tenir longtemps parce que les vols ne sont pas très rapides, donc on doit parfois passer 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures dans l'avion. Il faut pas s'endormir, il faut tenir le coup et il faut parfois, quand le vent est trop fort, tenir les ailes, c'est-à-dire que le câblage n'est pas du tout avec tous les petits cerveaux moteurs qu'on a aujourd'hui. Il y a vraiment une dimension physique, hein, tenir l'appareil, et c'est une bête physique que Jean Mermoz.
Est-ce qu'il y a aussi une dimension scientifique que l'on retrouve chez Saint-Exupéry, chez Mermoz ?
Alors peut-être pas de la même manière. Disons que lui, bien sûr, il met au point, il essaye de mettre au point, il va servir aussi pour les essais des appareils, mais ce qu'il a surtout, on peut dire, c'est sa dimension de pilote, de performeur qui joue. Et puis ensuite, il y a d'autres dimensions qui vont s'ajouter à cela, le côté sympathique, le côté meneur d'hommes. On peut peut-être d'ailleurs revenir un petit peu sur sa formation, hein, parce que il ne peut pas rentrer dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il est trop jeune. Et donc, il boue, en fait, comme une bonne partie de ses adolescents, qui sont éduqués dans l'idée de se battre, de pouvoir un jour rentrer dans l'armée. Et il faut qu'il attende la fin de la guerre, et même au-delà, 2 années, pour se retrouver en 1920 à devenir, à rentrer dans les forces aériennes et à essayer de devenir pilote. Il va réussir et il va se retrouver en poste en Syrie, où il va rester en 1922 pendant plusieurs années. Et c'est là qu'il fait le maximum d'expériences de vol et qu'il va connaître, comme beaucoup d'autres, parce que c'est une expérience aujourd'hui qui est difficile à expliquer, mais il va connaître l'atterrissage forcé et traverser, revenir à la base, dans le désert, seul. Donc la dimension d'isolement que Kessel, que Saint-Exupéry vont évoquer. Hein. On est seul, il y a la machine qui est cassée, comment faire pour la réparer? Est-ce qu'on peut la réparer? Est-ce qu'il faut rentrer, ensuite revenir chercher l'appareil, etc. Donc il connaît cette expérience-là, cette espèce d'inquiétude, et on peut dire que c'est peut-être là, dans ce premier moment, que commence à se forger, disons, ce qu'on pourrait appeler le destin héroïque, c'est-à-dire le moment où on pense qu'on est capable de défier les éléments. C'est là qu'il va l'éprouver pour la première fois, et puis ensuite, il va essayer de rentrer dans l'aéropostale. Ce qui n'est pas facile, on raconte souvent... Une anecdote, c'est qu'il veut absolument, donc il arrive à Toulouse, il veut rentrer dans les lignes aériennes en 1924, qui sont les lignes Latécoère, qui sont dirigées par Didier Dora. Et donc il arrive là et il veut l'éblouir. Donc il monte dans son avion, looping, piqué, etc. Et évidemment, l'autre le...
Dora est furieux.
Oui, il se dit, mais c'est pas possible, on va pas embaucher comme ça. Donc pour lui faire une leçon, il lui dit, non, c'est pas possible, vous pilotez n'importe comment, je veux pas des têtes brûlées, je veux des gens qui arrivent. Et donc, Mermoz est un peu dépité comme ça, et puis il le rappelle et lui dit bon allez hop, et il le fait rentrer. Et au départ il le fait rentrer en lui laissant éventuellement l'espoir de piloter, il n'en est pas certain. Et cette petite leçon va lui servir, et ensuite évidemment son objectif va être de tenir la ligne.
Alors c'est très important ce que nous disons depuis tout à l'heure, parce que finalement on se rend compte qu'il existe bien une aviation française, alors que jusqu'à présent tous nos portraits d'aventuriers aviateurs concernaient des étrangers.
Oui, on a beaucoup insisté nous sur Lindbergh, mais il y a quand même le souvenir de Blériot, qui a été notre premier grand, on va dire, en un sens, même s'il a eu quelques devanciers. Mais là, ce qui est intéressant dans la partie Mermoz, c'est qu'on arrive au moment où la logique de l'aviation, c'est la logique de l'extension. Et donc, on peut dire qu'il ne se passe pas d'années, de mois, sans qu'il y ait des records battus. Il faut bien penser à ça. L'objectif des Français, des Allemands, des Américains à cette époque-là, c'est de voler de plus en plus loin, de rester le plus longtemps possible en l'air. Et il me semble, moi, que dans l'aventure dans laquelle se lance Mermoz, qui est cette idée d'étendre une ligne, d'ajouter des kilomètres, d'ajouter des escales, c'est ça le travail que font des gens comme Saint-Ex, que font des gens comme Kessel, que font des gens comme Mermoz à bord de leur Latécoère, c'est ça leur objectif, c'est rajouter des kilomètres, rajouter des heures de vol. Et donc, ils font ça, et en même temps, on voit bien qu'on est à un moment donné, on est à un moment précis où on est en train de rentrer dans une autre logique de la performance. C'est-à-dire que si on voulait être caricatural, le héros du 19e siècle, il peut faire son acte qu'une fois. On pourrait dire ça. C'est un peu le héros guerrier. Il fait un exploit et à la limite, derrière, il meurt, c'est fini. Et c'est pas reproductible. Là, on rentre dans un régime où, avec le même appareil, ou avec un appareil légèrement amélioré, on change une petite chose, et ben on va aller un peu plus loin. Donc on rentre dans un régime qui fait tout à fait penser à ce que peut être le sport olympique à la même époque. Vous savez, toujours un peu plus haut, toujours un peu plus loin. Et on voit bien là comme cette logique-là peut se coupler avec une logique industrielle qui permet... avec la rationalisation du travail, avec la division du travail, la taylorisation, d'améliorer les performances. Et il me semble que si cette génération retient tellement l'attention de ses contemporains, c'est parce qu'ils voient à travers eux le miroir de changements qui sont en train de s'accomplir, en quelque sorte une rationalisation du travail, une rationalisation du monde, mais en même temps, ils voient là la face positive, celle qui permet à l'homme de se dépasser, celle qui permet à l'homme d'aller un peu plus loin, donc dans cette espèce de cité industrielle, dans cette métropolis, si on veut prendre la métaphore de Fritz Lang à cette époque, qui est en train de se construire.
Alors surtout, finalement, après la Première Guerre mondiale, qui constitue une sorte de coup d'arrêt au développement des techniques, etc., justement, Mermoz ne participe pas à la Première Guerre, parce qu'il est trop jeune, et cette aventure constitue un substitut.
Oui, je pense qu'il y a cette dimension-là. Et vous savez, c'était une des hypothèses de Georges Mosset, c'était que ceux qui n'avaient pas pu faire la guerre avaient essayé d'avoir l'expérience dans l'après-guerre. Donc c'est comme ça qu'il analysait, par exemple, les corps francs. Il y a énormément de jeunes Allemands qui n'ont pas pu participer à la Première Guerre mondiale, qui rentrent dans les corps francs avec presque une surenchère. Le cas type, c'est Heinrich Himmler. Il n'a pas fait la Première Guerre, mais il est dans les corps francs, donc il se met derrière Röhm, et donc il va être peut-être un peu plus radicaux encore que ceux de ses chefs qui, eux, ont participé à la Première Guerre mondiale et ont vu la brutalité. totalité. Et donc, l'alpinisme, l'aviation, c'est l'occasion là de trouver une autre aventure, en quelque sorte, de trouver une autre exaltation du moi. Alors, quand même, ce qu'il y a, c'est que cette non-participation de Mermoz à la Première Guerre mondiale, à mon avis, elle pèse sur sa conscience. Et je pense que le choix politique qu'il fait en 1933 de rejoindre les Croix de Feu, et en tout cas une association parallèle des Croix de Feu, et de rentrer en 1935 dans le comité directeur de cette organisation, puis en 1936, de suivre le colonel de la Roque dans son parti social français, je pense que si Mermoz fait ce choix-là, c'est parce que il a peut-être aussi un complexe par rapport à cette génération politique montante qui à très peu de choses, parce qu'il faut penser que c'est à très peu de choses, Kessel, qui participe à la Première Guerre mondiale, est né en 98. Mmh. Lui, il est né en 1901, c'est 3 ans de moins. Et il n'a pas cette épreuve du feu, en quelque sorte, qui le qualifierait autant que les autres. Donc je pense que ça joue, et je pense aussi que l'autre dimension qui peut avoir joué un rôle, c'est qu'il est persuadé que l'option à jouer, c'est la terre, c'est-à-dire les avions de terre, pas les hydravions. Mmh. Or, au même moment, il y a une tension avec le ministère qui, lui, voudrait privilégier l'hydravion comme solution d'avenir. Donc c'est peut-être ça qui le pousse un peu dans l'opposition et qui fait qu'il va choisir une force qui est une force politique d'opposition, disons, au Front populaire et en partie aussi à certains fonctionnements du régime républicain.
Mmh. Sur le plan des idées, il avait une sorte de prédisposition à se tourner vers les Croix de Feu, en dehors de tout ce que vous venez de dire.
Il y a sûrement dans les Croix de Feu quelque chose qui lui plaît, qui est l'idée qu'on fait du social dans la réussite, en quelque sorte, et qu'on essaye de dépasser les clivages, ce qui divise, on essaye de dépasser les clivages politiques par l'action sociale, par l'entraide sociale. Donc je crois que cette dimension-là, faut pas la sous-estimer, elle est extrêmement forte à l'époque. Hein. C'est ce qui fait... Faut penser que pour beaucoup de gens, en fait, les Croix de Feu, bon, c'est une organisation, mais tout autour, il y a une myriade d'associations, d'organisations, de soupes populaires, de lieux pour sans-logis, d'associations sportives, de colonies de vacances pour enfants défavorisés, etc. Et donc, à cette époque-là, une bonne partie des gens voient ça. C'est-à-dire, ont le sentiment que, en quelque sorte, c'est les bons copains qui s'entraident. Et je pense qu'il y a cette lecture-là, il l'a, lui. Même si, il ne faut pas l'ignorer, frontalement, les Croix de Feu, c'est complètement le contraire de la SFIO, du Parti Socialiste Français. Les Croix de Feu, c'est considéré comme la droite. Une bonne partie des gens de gauche les considèrent d'ailleurs comme fascistes, mais dans l'outrance de l'époque, hein, dans le combat frontal que se livrent à l'époque la gauche et la droite. Il fait un choix politique, mais en même temps, et il me semble que s'il le fait, c'est parce qu'il le fait avec l'idée que cette droite-là va pouvoir être sociale, plutôt qu'une autre qui ne le serait pas.
Alors, il n'a pas l'occasion de voir l'évolution politique de la fin des années 30, parce qu'il meurt en 1936.
Oui, alors après une série d'exploits qu'on n'a pas évoqués, mais il bat record sur record, il va ouvrir de nouvelles escales, et puis il va essayer de faire des records de vitesse dans la traversée, d'essayer de faire des innovations. Et donc, il a un avion qu'il a construit, qui a été spécialement conçu pour lui, avec son équipage, qui s'appelle la Croix du Sud, et avec lequel il va essayer de battre un nouveau record, et qui est un record transatlantique, et il s'élance pour cela en décembre 1936, le 7 décembre 1936, et au bout d'un moment, l'avion ne répond plus. Le dernier message qu'on utilise souvent, qui est assez laconique, c'est coupon moteur arrière droit. Donc on pense vraisemblablement qu'ils ont eu un problème de moteur, qu'ils n'ont plus de propulsion, et donc qu'ils se sont abîmés en mer. On va attendre quand même pratiquement 3 semaines avant de le déclarer mort. Et il va y avoir des messes. Alors, messe, évidemment, en son honneur du côté des Croix de Feu. Et puis, reconnaissance très importante par le gouvernement du Front populaire qui, à la fin du mois de décembre, organise une cérémonie en son honneur dans l'hôtel national des Invalides. Et celui qu'il avait critiqué, le ministre de l'ère du Front populaire, Pierre Cotte, lui rend un hommage extrêmement important. Donc, c'est vraiment, je crois, là, le signe que Mermoz, malgré son engagement politique, est bien un héros national. Il y aura des lycées Jean Mermoz, il y aura des cercles d'aviation Jean Mermoz, il y aura des rues Jean Mermoz, des plages Jean Mermoz. Donc il y a bien cette dimension là qu'on voit de l'homme qui, par son travail, par sa réussite, réussit à devenir en quelque sorte un exemple. Évidemment.
Donc, c'est absolument pas réservé. On a tendance à réserver cette idée aux pays totalitaires, aux pays fascistes, alors que c'était une chose qui existait bien en France, le culte du héros.
Oui, mais alors, le culte du héros, c'est pas le culte de la personnalité. Il faut pas confondre. Ouais. Là, c'est quand même quelqu'un, on peut dire, qui donne sa vie pour l'idéal d'améliorer en quelque sorte la capacité de voler des Français. C'est un peu ça. Donc c'est un héros national qui a servi les ailes françaises. En même temps, c'est pas non plus le culte totalitaire avec l'obéissance, les mots d'ordre qu'on va répéter jusqu'à avoir un lavage de cerveau. C'est pas du tout ça. Et il me semble, moi, que dans cette reconnaissance nationale, il y a presque l'embryon de ce qu'on pourrait appeler une panthéonisation, en fait. Hein. Et on voit bien comment l'État essaye de récupérer ce qui pourrait être une mémoire partisane pour en faire une œuvre collective, une œuvre qui dépasse au fond les clivages. Sans doute, dans la poursuite de cette reconnaissance de Mermoz comme héros collectif, comme héros national, dont on oublie la dimension politique. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de son engagement politique. Ce qu'on retient, c'est le travail de Kessel. C'est un homme.
C'est lui qui va porter la mémoire de Mermoz.
Oui, Kessel qui publie donc une biographie de Mermoz en 1939. Et ce qu'on retient, au fond, c'est une image relativement simple. Un homme, un avion, et puis on imagine comme ça, derrière lui, le désert, à perte de vue, et éventuellement un rayon de soleil.
Eh bien, Fabrice, c'est sur ce rayon de soleil que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup et nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau portrait d'aventurier. Merci.